rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 25 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président de transition au Mali, Bandaou, et le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment ce vendredi à Bamako. Au Ghana, des séparatistes présumés ont attaqué deux postes de police dans la région de la Volta. Accusé de terrorisme au Rwanda, Paul Rusesabagina admet avoir participé à la création d'un groupe rebelle, tout en niant être impliqué dans ces crimes. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide de près de 152 millions de dollars pour quatre pays du Sahel. Nous reviendrons sur le discours du président guinéen Alpha Condé à l'Assemblée générale de l'ONU. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, Bandaou, le président de la transition et le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment ce vendredi matin devant la Cour suprême lors d'une cérémonie officielle à Bamako. Cette investiture est censée marquer le début d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois, préparant des élections générales et le retour des civils à la tête du pays. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
La Cour suprême était en transport au CICB pour la prestation des serments du président et du vice-président de la transition, Boya Dembélé, procureur général près la Cour suprême de Bamako.
Nous devons saisir l'opportunité de cette transition pour nous ressaisir, créer les conditions qui permettraient au pays de ne plus sombrer. Bref, remettre le pays sur les rails. Il faudra véritablement une refondation même de l'État, ou à tout le moins poser les jalons qui permettraient une telle refondation.
La Cour a reçu les deux serments dans la formule suivante prononcée par le président de la transition Bandaou.
Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine.
Le colonel-major Bandaou est devenu ainsi président de la transition pour une durée de 18 mois.
La fraude électorale, l'achat de voix, l'incursion de l'administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les cours d'arbitre, la bonne gestion de nos ressources. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La CEDEAO a maintenu les sanctions imposées à la suite du coup d'État du 18 août au Mali. Les sanctions seront levées lorsqu'un premier ministre civil sera nommé, dit un communiqué lu devant la presse par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a récusé l'exclusion de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de l'élection présidentielle du 31 octobre. La Cour ordonne à l'État ivoirien de prendre toute mesure nécessaire en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant M. Gbagbo de participer au scrutin. L'ex-chef d'État ne figure pas sur les listes électorales et le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature déposée par ses partisans. Des séparatistes armés présumés ont attaqué ce vendredi deux postes de police dans l'est du Ghana, séquestrant trois officiers. Ils ont érigé des barrages autour du territoire dont ils revendiquent l'indépendance. Le point avec Bagasikoura.
À l'aube, des hommes armés suspectés d'être des membres du groupe séparatiste Homeland Study Group Foundation ont lancé ces attaques dans les localités de Aveyime et Mepe dans la région orientale de la Volta. Selon le ministre régional Archibald Letsa, les forces de sécurité contrôlent la situation. Nous travaillons à la libération des policiers, a-t-il déclaré. Selon lui, ces séparatistes qui veulent créer une nouvelle nation appelée Togoland Occidental ont également érigé plusieurs barrages illégaux aux frontières de la région, à quelques 150 km au nord-est d'Accra. Autour de ces barrages, le groupe a hissé des drapeaux et déroulé des pancartes réclamant la restauration du Togoland occidental selon plusieurs témoins. Ces barrages ont créé des embouteillages importants dans la région et ses alentours, ont rapporté des voyageurs. Ce groupe rebelle s'est formé en 1994 pour défendre les droits des habitants de la région de la Volta, qui abrite de nombreuses ethnies. En novembre 2019, le groupe a unilatéralement déclaré l'indépendance de ce territoire. À la suite de cette déclaration, 9 de leurs dirigeants ont été arrêtés en mai. Accusés de trahison, ils ont été finalement relâchés en juillet et les charges abandonnées.
Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide de près de 152 millions de dollars pour 4 pays du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ces États font face à des déplacements massifs de population et à l'insécurité alimentaire en raison des conflits dans la région. Le point avec Nanit Talani.
Plus de 85 millions de dollars proviennent de l'agence USAID et 67 millions de dollars du département d'État. C'est une aide pour les personnes déplacées, les réfugiés et les communautés qui les accueillent. Elle comprend de la nourriture, des abris d'urgence, l'accès aux soins de santé primaire, des fournitures médicales, des produits pharmaceutiques et de l'eau potable ainsi que des moyens de subsistance. En outre, le gouvernement américain travaille avec ses partenaires non gouvernementaux, les Nations Unies, pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau dans les camps de déplacés, fournir des kits d'hygiène et garantir que ces déplacés ont accès à des latrines appropriées. Parce que les femmes et les enfants sont les plus vulnérables pendant les conflits, Washington finance aussi une aide nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans.
L'armée tchadienne a tué jeudi 20 islamistes armés et libéré 12 otages près du lac Tchad, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene. Le 17 septembre, des djihadistes ont attaqué un village et enlevé des civils. Jeudi, à Bar Kalam, près de la frontière nigériane, les militaires ont tué 15 djihadistes et libéré 9 enfants et 3 femmes. Un soldat a été blessé dans l'assaut. Plus tard, à Bilabrim, un deuxième assaut a fait 5 morts parmi les djihadistes et 2 blessés dans les rangs de l'armée. Au Rwanda, le héros controversé du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, a admis avoir participé à la création d'un groupe rebelle. Dans une audience au tribunal, il a cependant nié être impliqué dans les crimes de ce bras armé du MRCD. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Nous avons formé le Front National de Libération comme un bras armé, pas comme un groupe terroriste, comme le dit le procureur, a déclaré Paul Rusesabagina. Je ne nie pas que le FLN a commis des crimes, mais mon rôle était la diplomatie, a-t-il ajouté. En 2018, Paul Rusesabagina a fondé le mouvement rwandais pour le changement démocratique. L'accord que nous avons signé pour former le MRCD comme une plateforme politique incluait la formation d'un bras armé appelé le FLN. Mais mon rôle était de travailler pour cette plateforme politique et j'étais en charge de la diplomatie. Le Front de Libération Nationale est considéré comme un groupe terroriste par Kigali. À plusieurs reprises, M. Rusesabagina avait publiquement exprimé son soutien au FLN, qui a déjà mené plusieurs attaques armées sur le sol rwandais. Arrêté fin août par la police rwandaise, il a ensuite été inculpé mi-septembre pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Manifestation aux États-Unis défiant le couvre-feu imposant après les violences de la veille. Plus d'un millier de personnes ont encore défilé jeudi soir à Louisville dans le Kentucky pour dénoncer l'impunité des policiers ayant tué l'afro-américaine Breonna Taylor. Mercredi soir, 127 personnes ont été arrêtées lors d'affrontements avec la police durant lesquels 2 policiers ont été blessés par balle. La dépouille de la juge de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg est entrée au Capitole à Washington en présence du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Son cercueil a été porté par des militaires. Le président américain Donald Trump s'est recueilli jeudi devant sa dépouille qui était exposée à l'entrée de la Cour suprême. Sept pays européens affichent une évolution croissante de l'épidémie de Covid-19, dont l'Espagne, la Croatie et Malte. En France, des centaines de restaurateurs ont protesté à Marseille contre les nouvelles mesures ordonnant la fermeture à partir de samedi des bars et restaurants de la métropole. Près de la moitié du pays de Galles, dont la capitale Cardiff, va être confinée dès dimanche soir. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La Compagnie nationale libyenne de pétrole prévoit une hausse progressive de la production au cours des semaines prochaines, quand tous les champs pétroliers seront opérationnels après le départ des groupes armés. Pour l'instant, seuls le champ d'Al-Sharara dans le sud et les terminaux pétroliers de Marsa Ariga, Marsa Briga et Zuetina dans l'est sont opérationnels. Les ports de Ras Lanouf et Al-Sidra dans l'est demeurent fermés tant qu'il y aura des mercenaires étrangers sur ces sites, selon la NOC. Plusieurs chefs d'État africains réclament à l'ONU une plus grande solidarité internationale face au Covid-19, dont l'annulation de leurs dettes publiques et un soutien du FMI. La pandémie pourrait effacer plus d'une décennie de croissance économique et de progrès sociaux réalisés par le continent africain, avertit le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon lui, les besoins financiers de l'Afrique sont évalués à 100 milliards de dollars par an sur 3 ans, soit 300 milliards de dollars. Pour terminer, les perspectives économiques mondiales sont moins sombres que prévues en juin, a déclaré le FMI jeudi. Dans ses prévisions de juin, le fonds a déclaré que le PIB mondial chuterait de 4,9% et que le virus éliminerait 12 milliards de dollars sur 2 ans. Cependant, la Chine et certaines autres grandes économies ont fonctionné mieux que prévu au deuxième trimestre de 2020, en partie grâce à l'assouplissement des mesures de confinement.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. L'international burkinabé Bertrand Traoré, récemment transféré de Lyon en France à Aston Villa en Premier League, a fait trembler les filets hier soir dès son premier match. Il a été transféré il y a 5 jours seulement pour 18,4 millions d'euros. Et lors de cette rencontre ce jeudi contre Bristol City, mené 3-0 en League Cup, l'attaquant des étalons du Burkina Faso a marqué à la 14e minute d'une superbe reprise du droit sur un centre venu du côté opposé. Fousseni Diabaté, l'attaquant malien qui jouait à Leicester en Premier League, a été transféré à Trabzonspor en Turquie pour 3 saisons, plus une 4e en option. Le transfert serait d'environ 3 millions d'euros selon le site de l'équipe qui rapporte l'info. Le Bayern Munich, en s'imposant jeudi en Supercoupe d'Europe contre Séville 2-1 après prolongation, a remporté sa 23e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Nouveau record absolu pour un club d'un grand championnat européen. Aucun club des 5 grands championnats européens n'a jamais réussi une telle série, note vendredi le site du club bavarois qui a tout gagné depuis le 16 février et son succès 4-1 à Cologne en Bundesliga. Des statisticiens du football ont confirmé ce record qui appartenait jusque-là au Real Madrid de Carlo Ancelotti, avec 22 victoires d'affilée entre septembre et décembre 2014. Plus rien ne me surprend, la star argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, a taclé les dirigeants du club sur Instagram ce vendredi dans un post d'adieu à son ami et ex-coéquipier Luis Suarez, transféré mercredi soir à l'Atlético Madrid. « Tu méritais qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es », l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, a écrit Messi sur Instagram. Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait, mais en vérité, au point où en sont les choses, plus rien ne me surprend, a ajouté le capitaine Blaugrana. Je commençais à me faire à l'idée, mais aujourd'hui je suis rentré dans le vestiaire et j'ai réalisé pour de vrai. Basketball pour terminer, les Lakers sont prêts de renouer avec leur première finale NBA en 10 ans. Seule une victoire leur manque après celle obtenue jeudi de haute lutte contre Denver qui va encore devoir réussir une remontée fantastique pour rester en vie. L'image d'Anthony Davis qui a fait 34 points. C'est dans la souffrance que elle s'est mise en position extrêmement favorable en menant 3-1 dans cette série où les Koryas Nuggets lui donnent décidément bien du fil à retordre.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président et le vice-président de transition au Mali, Bandaou, retraité de l'armée, et le colonel Assimi Goïta ont prêté serment à Bamako devant la Cour suprême. La cérémonie à laquelle assistaient de nombreux militaires en uniforme s'est tenue en présence de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, émissaire de la CDAO. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Dans la matinée de ce vendredi, le point de convergence des Bamakois était le CICB. Les femmes étaient en ligne pour avoir les premières places.
Le Mali sera une refondation. On fera vraiment une reconstruction des tissus de ce pays, et tout en accompagnant vraiment ces vigoureux soldats militaires, le président Bandaou. Les priorités doivent être vraiment combattre l'impunité et un état de droit, de justice, un état équitable où vraiment la corruption sera sévèrement punie.
Sur la longue file de contrôle sécuritaire, Oumar Mariko rêve d'un Mali nouveau.
La quête du bonheur pour un peuple obéit à des chemins parfois très tortueux. Mais l'essentiel, c'est que le mouvement ait une orientation qui fonde l'espoir et qui incite les gens au travail dans l'espoir de pouvoir accomplir ce pour lequel ils se sont battus. Que le peuple malien est un peuple véritablement indépendant. Nous sommes en quête d'indépendance et de souveraineté, qui signifie que laisser les Maliens matures avec une histoire extrêmement importante à se comporter comme ils veulent. C'est ça la liberté.
Dans la salle Djolibaba Sissoko du CICB, la loge officielle était occupée par les représentants de la CDAO. Le président Bissau guinéen était de la partie, tout comme l'ancien président de la transition de 2012, Diankunda Traoré. Bandaou, après son investiture, prends la parole.
Je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. La fraude électorale, l'achat de voix, l'incursion de l'administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les cours d'arbitre, la bonne gestion de nos ressources, de nos maigres ressources, est en effet une obligation. Ce sera là un sentier de la transition. Il sera quotidien. Il sera renforcé et ne sera pas négligé un seul instant. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme.
Plusieurs jeunes cadres politiques étaient de cette cérémonie. Ils se réjouissent des annonces faites par Bandaou.
On vit un grand moment historique, une première dans l'histoire de notre pays, puisque nous avons un président et un vice-président qui ont été investis aujourd'hui. Le discours du président de la transition, M. Bandaou, a été un discours très rassurant, qui a eu l'avantage de toucher à tous les aspects qui nous tenaient très à cœur, notamment la mise en œuvre des recommandations du dialogue, mais également la lutte implacable contre la corruption à travers la remise de tous les rapports des structures de contrôle à la justice.
Pour l'artiste international Salif Keita, c'est un nouveau départ pour son pays.
Cette cérémonie, c'est une chance pour les Maliens. C'est un Mali nouveau qui est en train de naître. Donc vraiment, on est très content d'avoir cette chance-là. Aujourd'hui, nous espérons que le Mali ait un nouveau départ, plus de sécurité et surtout des gens qui vont avoir conscience pour la bonne gouvernance. Les priorités, c'est la sécurité, la santé, l'éducation et aussi nous voulons être fiers parce que nous voulons être fiers de notre armée. Et la sécurité est très importante.
Après cette cérémonie de prestation, la CDAO a animé une conférence de presse pour annoncer qu'elle levera les sanctions contre le Mali après la nomination d'un premier ministre dont le nom est très attendu actuellement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Quatrième journée de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président Paul Biya du Cameroun était annoncé, mais finalement d'autres chefs d'État ont pris la parole. En revanche, jeudi a été une journée pleinement africaine. Dilidiko revient sur les principaux orateurs de ce jeudi.
Paul Biya, le président du Cameroun, était initialement programmé, mais au final, ce sont Mahmoud Abbas, président de la Palestine, David Panuelo de la Micronésie et le pape François qui se sont exprimés ce matin. Par contre, hier, de nombreux chefs d'État africains se sont succédés pour s'adresser à l'Assemblée. Mahamadou Issoufou du Niger, le président ivoirien Alassane Ouattara et Roch Marc-Christian Kabore du Burkina Faso ont été suivis par Denis Sassou Nguesso du Congo et Alpha Condé de la Guinée qui brigue un troisième mandat le 18 octobre mais n'a fait aucune mention de ces élections dans son discours.
Ma délégation exprime le souhait de voir figurer dans la déclaration politique sur la couverture sanitaire mondiale l'inclusion du principe de l'accès universel à la santé publique. Nous ne devons rien ménager pour construire un monde en paix et en sécurité à léguer aux générations futures.
Toujours hier, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique, Évariste Ndayi Chimier du Burundi et Ali Bongo du Gabon. Le président Bongo, dont l'état de santé avait donné lieu à beaucoup de spéculations, est apparu bien en forme dans son message vidéo.
L'inclusion est une préoccupation majeure dans l'orientation politique de mon pays. C'est toute la portée du programme politique pour l'égalité des chances que j'impulse en faveur d'un développement plus juste et plus équitable, revalorisant les femmes, les jeunes, les personnes les plus vulnérables, afin que personne ne soit laissé en marge du développement de mon pays. C'est dans cet élan qu'il m'a été donné de nommer récemment une femme aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement.
La 75e session de l'Assemblée générale, essentiellement virtuelle, sera suivie du sommet tout aussi virtuel sur la biodiversité le 30 septembre, une rencontre de haut niveau commémorant le 25e anniversaire de la conférence sur les femmes de Beijing le 1er octobre et enfin le 2 octobre, la journée mondiale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président Donald Trump a fait savoir qu'il ne peut pas garantir un transfert pacifique du pouvoir au cas où il perdrait l'élection du 3 novembre. Il a de nouveau remis en cause la légitimité du recours massif au vote par correspondance, une mesure dictée par la pandémie de Covid-19. Des sondages indiquent que les démocrates sont plus nombreux à vouloir voter de cette manière que les républicains. Un reportage de Brian Padden, le récit est de Michel Joseph.
Les divergences partisanes au sujet du vote par la poste pourraient mener à ce que certains experts appellent une élection mirage rouge. Sous ce scénario, le président Trump pourrait revendiquer la victoire dès les premiers résultats de la soirée, puis perdre au profit de son rival démocrate Joe Biden après le décompte des suffrages du vote par correspondance. Qualifiant le vote par correspondance de frauduleux et d'anarque, le président Trump prédit une contestation judiciaire des résultats et la Cour suprême pourrait être amenée à intervenir. C'est une raison qu'il a invoquée pour justifier sa décision de nommer avant l'élection une remplaçante à la juge Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême qui vient de mourir.
Je pense que cela aboutira à la Cour suprême. Je pense qu'il est très important que nous ayons 9 juges.
Les analystes notent qu'il n'y a aucune preuve que le vote par correspondance donne lieu à une fraude généralisée. Ils soulignent cependant les bulletins envoyés par voie postale font l'objet d'un taux élevé de rejet, essentiellement parce qu'ils ne sont pas correctement remplis. En outre, du fait de la pandémie de coronavirus, certains États ont des difficultés à faire face à l'afflux du vote par correspondance. Hans von Spakovsky de la Heritage Foundation.
Plus vous encouragez les gens à voter par correspondance, plus vous aurez des gens dont les votes ne seront jamais pris en compte.
Quant au rôle de la Cour suprême dans tout cela, si rôle il y a, cela reste à voir. Sam Berger est analyste au Centre pour le progrès américain.
Espérons que nous ne nous retrouverons pas à demander au juge de la Cour suprême de trancher une affaire qui sera déterminante pour l'issue de l'élection. Ce serait problématique pour la démocratie.
Lors de l'élection présidentielle âprement disputée de l'an 2000, la Cour suprême avait tranché une dispute au sujet du recomptage des voix en Floride. Une décision qui avait pratiquement donné la victoire au républicain George W. Bush contre l'ancien vice-président démocrate Al Gore. Ce dernier, qui avait pourtant remporté le vote populaire, avait finalement concédé la défaite. Refusant de donner une telle garantie, le président Trump a dit mercredi « Nous verrons ce qui adviendra ». Avec la vive tension entre démocrates et républicains, les deux camps redoutent qu'une présidentielle âprement disputée mène à des affrontements entre milices de droite et les radicaux de gauche.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bon week-end à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Promouvoir la croissance économique en Amérique latine est particulièrement important en ce moment, alors que la région continue de combattre le COVID-19 et de s'orienter dans la voie de la reprise, a dit le secrétaire adjoint intérimaire aux affaires de l'hémisphère occidental, l'ambassadeur Michael Kozak. Les États-Unis sont un grand partenaire commercial pour plus de deux tiers des pays de l'hémisphère occidental. À mesure que les économies de la région commencent à rouvrir, les États-Unis font leur part pour stimuler la croissance économique post-Covid à travers leur initiative « Croissance dans les Amériques » ou « America Crece ». Les pays de la région font face à des lacunes dans les infrastructures critiques qui limitent la croissance économique. America Crece canalise les ressources et expertises du gouvernement américain pour attirer les investissements du secteur privé dans les domaines de l'énergie, du transport et des infrastructures de télécommunications à travers la région. À ce jour, les États-Unis ont signé des accords America Crece avec 10 pays partenaires, le Panama, le Chili, la Jamaïque, l'Argentine, la Colombie et plus récemment le Salvador, l'Équateur, le Honduras et la Bolivie. Ces accords incluent des engagements des pays partenaires à renforcer la compétitivité et la transparence en conformité avec les meilleures pratiques internationales. La Société de financement du développement international des États-Unis, ou DFC, est la banque de développement de l'Amérique et un outil clé de mobilisation des investissements en soutien à America Crece. Les États-Unis s'attendent à ce que la DFC génère au moins 12 milliards de dollars d'investissement dans la région sur les 5 prochaines années. D'autres importants secteurs de la revitalisation des économies de l'hémisphère occidental sont les institutions financières internationales, y compris la Banque interaméricaine de développement. La démocratie est essentielle à l'édification d'infrastructures fiables et à un avenir de croissance économique dans les Amériques. La pandémie du COVID-19 a souligné l'importance des chaînes d'approvisionnement sécurisées entre des partenaires fiables. Les pays, y compris les États-Unis, doivent réduire leur dépendance vis-à-vis des produits manufacturés en Chine, a souligné l'ambassadeur Kozak. C'est pourquoi les États-Unis intensifient leurs efforts pour renforcer et diversifier les chaînes d'approvisionnement américaines et reconstruire les chaînes d'approvisionnement hémisphériques nord-sud. L'objectif est de rapprocher les ressources et les manufactures. Les États-Unis continueront d'être des partenaires de choix en aidant l'hémisphère occidental à surmonter le défi de la pandémie du COVID-19. Entre-temps, a dit l'ambassadeur cosaque, la croissance demeure la condition essentielle pour consolider les institutions démocratiques et parachever la vision d'un hémisphère de liberté.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.